VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Niamey. Bienvenue à notre journal. Au Bénin, le millionnaire Patrice Talon, probable vainqueur de l'élection présidentielle dans le pays. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés, mais le premier ministre sortant, Lionel Zinzou, l'adversaire de l'homme d'affaires et roi du coton, a reconnu dans la nuit de dimanche à lundi sa défaite. Les résultats provisoires font apparaître une victoire très nette de Patrice Talon, a déclaré M. Zinzou par téléphone à l'AFP. L'écart est significatif. La victoire électorale de M. Talon est certaine, a ajouté le Premier ministre sortant. Lionel Zinzou n'a pas souhaité communiquer de chiffres concernant le scrutin, mais la Commission électorale nationale Sénat pourrait annoncer des résultats provisoires probablement dans la journée d'aujourd'hui, a-t-il précisé. Élection au Niger, l'heure est à la compilation des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Le scrutin d'hier s'est déroulé sans incident majeur, mais la participation électorale semblait faible à Niamey, la capitale. L'opposition, qui avait qualifié ce second tour de non-événement, avait appelé ses militants à rester chez eux en guise de boycott. Écoutons maintenant Amadou Boubacar Cissé, un des responsables de la Coupe à 2016, l'opposition nigériane qui avait appelé au boycott du scrutin.
Les bureaux de vote étaient pratiquement déserts. Donc ça, aujourd'hui, on peut très clairement indiquer que c'est un vote sanction. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons indiqué que ces élections, nous ne pouvons pas accepter les résultats, ni les institutions issues de ce scrutin.
Amadou Boubacar Cissé, un responsable de la COPA 2016, la coalition d'opposition au Niger, propos recueillis par notre envoyé spécial Bagassi Koura. Référendum constitutionnel au Sénégal, victoire du oui dans ce scrutin de dimanche qui vise notamment une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Élection marquée par une faible participation selon des résultats partiels publiés aujourd'hui par les médias. Le camp du oui a devancé les noms à Dakar, la capitale, et dans plusieurs villes comme Bourg dans l'ouest, Saint-Louis dans le nord-ouest et Kaolack dans le centre. Par contre, le non l'a emporté à Thiès dans l'ouest, Touba et Mbaké dans le centre du pays. Des résultats issus, des chiffres affichés hier devant les bureaux de vote après dépouillement. Le référendum a pris des allures de vote pour ou contre le président Macky Sall. Le compte-rendu de notre correspondante à Dakar, Sokhna Nata Mbaye.
Vers les coups de 21h, le taux de participation sur l'étendue du territoire était de près de 45%. Dans le centre où a voté le chef de l'État, Macky Sall, le oui caracole largement en tête. Dans son bureau de vote, il y a eu 1821 inscrits avec 603 votants, 328 bulletins en faveur du oui et 271 bulletins en faveur du non. Dans le département de Mbaké, où se trouve la ville religieuse de Touba, c'est le non qui l'emporte. Des responsables de l'opposition ont réussi à convaincre des citoyens dans leur fief. Au cours de la journée de vote, un incident majeur a secoué les médias, mais aussi la classe politique. La chaîne de télévision privée Walfajri a été menacée de fermeture par les autorités, selon son président directeur général. On lui reprocherait de faire une campagne en faveur du non. Sidi Lamine Niass se défend.
Comme on le fait dans toutes les télévisions, commenter par des correspondants, on n'a rien fait contrairement à ce qui se fait dans les autres organes.
Le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes cité dans cette affaire et parle d'un simple échange de propos sur le respect du code électoral. Le faible taux de participation a été noté dans plusieurs localités. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Présidentielle hier au Congo-Brazzaville, la police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes près de 200 personnes rassemblées autour d'un bureau de vote dans le sud de la capitale. Évoquant des raisons de sécurité et de sûreté nationale, les autorités ont par ailleurs décidé de couper les télécommunications, téléphone, internet, SMS, pour 48 heures dimanche et aujourd'hui. Elles disent vouloir empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. L'élection présidentielle opposait 8 candidats au chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir. Au Tchad, le personnel de l'hôpital Mère et Enfant de N'Djamena est en grève ce lundi. Les travailleurs revendiquent 3 mois d'arriéré de salaire. Par ailleurs, et toujours dans la capitale tchadienne, les étudiants de l'université de N'Djamena ont barricadé les entrées de leur faculté, notamment à Toukra et certains axes principaux pour revendiquer de meilleures conditions d'études. Toujours au Tchad, la présidentielle est prévue le 10 avril et la campagne présidentielle a débuté hier conformément au calendrier électoral élaboré par la Commission nationale indépendante. Le président sortant Idriss Déby Itno a donné le coup d'envoi de cette campagne à l'occasion d'un grand meeting sur la place de la Nation à N'Djamena. Plus de détails avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Jamais une campagne électorale au Tchad n'a été marquée par des revendications sociales comme celle qui vient d'être lancée ce dimanche 20 mars par le président sortant Idriss Déby Itno. Pendant qu'une plateforme des organisations de la société civile annonce plusieurs actions de désobéissance civique durant cette période pour exiger le retrait de la candidature de Déby de la course à la magistrature suprême, les ex-travailleurs de TCC, Tchad Cameroun Constructor et les maîtres communautaires quant à eux entendent multiplier les sittings pour revendiquer respectivement les reliquats de 50% des heures supplémentaires obtenues de l'État tchadien par condamnation et les arriérés de 20 mois de subsides. De l'autre côté, les jeunes diplômés sans emploi exigent eux aussi leur intégration à la fonction publique à travers la rue. Mais déjà à la veille du lancement officiel de cette campagne, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration met en garde ces organisations qui s'hasarderaient à organiser une manifestation autre que pour soutenir les candidats en lice. Ahmad Mahamad Bachir.
Ne sont autorisés pendant cette période de campagne électorale que les manifestations de soutien aux différents candidats. Toute autre manifestation publique qui sort du cadre de la campagne électorale est purement et simplement interdite. Les autorités administratives ainsi que les responsables de sécurité sur l'ensemble du territoire national doivent faire observer toutes les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes, leurs biens et garantir pour ce qui les concerne le bon déroulement de la campagne électorale.
C'est dans cette situation de crise sociale que le président candidat à sa propre succession, Idriss Déby Itno, se montre un homme de la situation et demande à ses militants de barrer la route aux autres candidats le 10 avril prochain.
Les acquis les plus importants, c'est la paix et la stabilité. Tout ce que nous avions fait dans ce pays-là, ce sont vos acquis à vous. Ce n'est pas à eux. Tant qu'ils partaient crier à Paris, ou bien ils viennent ici avec des mots d'ordre d'extérieur pour vendre la souveraineté du Tchad, ni vendable, ni achetable. Et je leur barrerai la route. Je suis jaloux de la souveraineté du Tchad. Et je n'ai aucune officine derrière moi, ni agence étrangère derrière moi. Tout le monde sait ici que Déby n'a pas de compte à l'étranger. Que Déby ne détourne pas l'argent public. Mon habit est blanc. Je suis blanc comme cet habit.
André Kodmajingar dans la zone septentrionale du Tchad pour la Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Somalie, les militants d'Al-Shabaab ont attaqué une base militaire du gouvernement. 6 soldats ont été tués. L'attaque a visé la base de Lantabour à 40 km au sud de Mogadiscio aux premières heures de ce lundi. L'actualité dans le reste du monde, visite historique du président américain Barack Obama à Cuba. Le chef de l'exécutif américain rencontre son homologue cubain Raúl Castro aujourd'hui pour donner une nouvelle impulsion au rapprochement engagé fin 2014 entre les États-Unis et l'île antillaise. Barack Obama est au deuxième jour d'une visite historique à La Havane pour le président américain qui quittera la Maison-Blanche dans 10 mois. L'objectif est clair, rendre irréversible le dégel avec La Havane, quel que soit son successeur en 2017, démocrate ou républicain. Raúl Castro, de 30 ans son aîné, devrait lui une nouvelle fois plaider pour la suspension ou l'élimination de l'embargo qui pénalise son pays depuis 1962. En Haïti voisine, l'Assemblée des députés a rejeté hier le gouvernement du Premier ministre Fritz Alphonse Jean, nommé par le président intérimaire Jocelyn Privert. Le Premier ministre avait besoin d'un vote de 60 députés sur 75 présents pour obtenir l'approbation de sa politique, de sa déclaration de politique générale et de la composition de son gouvernement. Après une séance de plus de 4 heures, 38 députés ont voté pour, 36 contre et il y a eu une abstention. Ce sont pour la plupart des députés du PHTK, le parti de l'ex-président Michel Martelly, qui ont voté contre. Et puis, la lutte contre le terrorisme, le maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé une forme très communautariste d'organisation de la commune bruxelloise de Molenbeek, qui a sans doute protégé Salah Abdeslam, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris. Suspect clé dans ces attentats sanglants, Salah Abdeslam, en fil depuis plus de 4 mois, a été capturé vendredi dernier à Molenbeek. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.